Un compte à rebours libératoire pour les deux premiers fans entrés dans la grande librairie Waterstones de Piccadilly Circus, qui ont pu mettre enfin la main sur Harry Potter, 7e et dernier tome de la saga de J.K. Rowling.
C'est impressionnant, inimaginable. Et maintenant, nuit blanche. Et voilà, on va essayer de bien le comprendre, de bien le lire. On va éviter de pleurer.
Ça peut pas faire de mal.
Qui c'est Harry Potter ?
Un petit garçon qui a perdu ses parents à cause d'un grand sorcier qui s'appelait Voldemort. Et donc il est orphelin et il va aller chez sa tante et son oncle qui sont très méchants avec lui. Après, il s'enfuit de chez son oncle et sa tante et va dans son école de sorciers et retrouve ses amis.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Joyeux Noël,
dit Ron d'une voix ensommeillée tandis que Harry s'extrayait du lit et passait sa robe de chambre. « Toi aussi, » dit Harry. « Tu te rends compte, j'ai des cadeaux. » Bientôt, il n'y eut plus qu'un seul paquet à ouvrir. Harry déchira le papier et un morceau de tissu très léger, d'une teinte argentée, glissa sur le sol où il forma un petit tas aux reflets luisants. Ron en resta bouche bée.
« J'ai entendu parler de ça, » dit-il d'une voix sourde. « Si c'est ce que je crois... » Il n'en existe pas beaucoup et c'est vraiment précieux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Harry en ramassant le morceau de tissu brillant.
En le prenant entre ses doigts, il eut l'impression de toucher de l'eau qu'on aurait transformée en étoffe. «
C'est une cape d'invisibilité, » dit Ron, impressionné. « J'en suis sûr maintenant. Essaye-la. »
Harry jeta la cape sur ses épaules et Ron poussa un cri.
« C'est bien ça. Regarde. »
Harry regarda ses pieds, mais ils avaient disparu. Il se précipita vers le miroir et ne vit que son visage qui semblait flotter dans l'air. Son corps, lui, était devenu invisible. Il remonta la cape sur sa tête et son reflet s'effaça complètement.
« Il y a un mot, » dit soudain Ron. « Un mot dans le paquet ?»
Harry enleva la cape et lut ce qui était écrit d'une écriture arrondie qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Ton père m'a laissé ceci avant de mourir. Il est temps que tu en hérites. Fais-en bon usage. » Très joyeux Noël. Il n'y avait pas de signature. Harry garda les yeux fixés sur le morceau de papier pendant que Ron contemplait la cape d'un air admiratif. « Je serais prêt à donner n'importe quoi pour en avoir une, » dit-il. « N'importe quoi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive ?»«
Rien, » dit Harry.
Il éprouvait une étrange sensation. Qui avait bien pu lui envoyer cette cape ? Avait-elle véritablement appartenu à son père ? Il aurait tellement voulu connaître la réponse à ces questions. Avant qu'il ait eu le temps de dire ou penser quoi que ce soit d'autre, la porte du dortoir s'ouvrit à la volée. Harry se hâta de cacher la cape. Il n'avait pas très envie de partager son secret avec quiconque d'autre. « Joyeux Noël !» lancèrent Fred et George Weasley. Vous les avez sans doute reconnus, ces garçons sont célèbres dans le monde entier. Il s'agit de l'apprenti sorcier Harry Potter et son meilleur ami Ron Weasley lors de leur première année au fameux château de Poudlard.
L'une des aptitudes les plus élémentaires d'un sorcier est la lévitation ou la capacité de faire voler des objets. Vous avez tous votre plume ? Bien.
En cette veillée de Noël, je vous invite à un voyage dans l'imaginaire fantastique créé par la romancière Joanne Kathleen Rowling. Souvenez-vous, son histoire ressemble à un conte de fées. Lorsqu'elle commence à écrire, l'auteur de la série Harry Potter vit dans une situation précaire dans les quartiers populaires d'Édimbourg. Divorcée, elle élève seule sa fille et survit grâce à des aides. 20 ans plus tard, elle a signé 7 romans qui se vendent à plus de 450 millions d'exemplaires et sont traduits en 79 langues.
Bienvenue à votre premier cours de vol. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Tout le monde vient se placer à gauche de son balai. Allez, dépêchez-vous ! Tendez la main droite au-dessus du balai et dites « Debout !»
Debout !
Ce soir, offrons-nous ce voyage à travers la saga Harry Potter comme un conte merveilleux pour les grands-enfants que nous sommes restés. Ouvrons le premier volume. Harry Potter à l'école des sorciers. En 2017, le best-seller qui a révolutionné la littérature jeunesse atteindra l'âge de raison. Il fêtera ses 20 ans. Mais revenons au début de l'histoire. Nous sommes le 31 juillet 1991. C'est l'anniversaire d'un jeune orphelin recueilli et maltraité par son oncle et sa tante. Le jour de ses 11 ans, un géant débarque chez eux pour lui dévoiler le mystère de ses origines et le mettre en garde contre un dangereux sorcier.
Voldemort.
Voldemort ?
Chut ! C'était une sombre époque, Harry, une sombre époque. Voldemort s'est mis à rassembler des adeptes. Il les a entraînés dans le monde des ténèbres. Quiconque lui résistait était tué. Des parents se sont défendus. Mais aucun de ceux qu'il avait décidé de tuer n'a jamais survécu. Aucun. Personne. Sauf toi.
Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie.
Il n'est pas question qu'il s'en aille, vous entendez ? Il n'ira pas là-bas !
Oh oh ! Et je suppose que c'est un pauvre moldu dans votre genre qui va l'en empêcher.
Moldu ?
Ceux qui n'ont pas de pouvoir magique. Ce garçon est inscrit à Poudlard depuis sa naissance. Il va faire ses études dans la meilleure école de sorcellerie du monde et il va avoir le plus grand directeur qu'on ait vu à Poudlard.
Un mois plus tard, le jeune garçon quitte enfin la famille Dursley et le monde pas tout à fait normal des moldus. Il va bientôt faire la connaissance de celui qui sera son meilleur ami, Ron Weasley, et de sa petite sœur Ginny, son futur grand amour. L'aventure commence à bord d'un train mystérieux, le Poudlard Express, qui entraîne l'apprenti sorcier vers son destin. Encore faut-il pouvoir trouver le bon train. Le voici à la gare de King's Cross, à Londres, où son oncle Vernon vient de le déposer sans un mot d'adieu, trop heureux de se débarrasser de son encombrant neveu. Nous sommes au chapitre 6 de l'École des sorciers. Rendez-vous sur la voie 9¾. Harry s'efforça de ne pas céder à la panique. Il était seul au milieu de la gare avec une valise qu'il pouvait à peine soulever et une grande cage avec une chouette à l'intérieur. Il se demanda si Hagrid n'avait pas oublié de lui dire quelque chose d'important sur la façon dont il devait s'y prendre pour trouver son train. Il se demandait s'il convenait de sortir sa baguette magique pour entapoter le composteur situé sur les deux quais lorsqu'il entendit un groupe de voyageurs parler derrière lui. « La gare est pleine de moldus. Fallait s'y attendre, » dit une voix. Harry fit aussitôt volte-face. Une petite femme replète parlait à quatre garçons aux cheveux roux flamboyants. Chacun des garçons poussait un chariot sur lequel était posée une grosse valise semblable à celle de Harry. Et chacun d'eux avait un hibou. Le cœur battant, Harry alla se placer derrière eux avec son propre chariot et décida de les suivre. « C'est quoi le numéro de la voie ?» demanda la mère des quatre garçons. « 9¾, » dit une fillette également rousse qui tenait la main de la petite femme replète. « Moi aussi, je veux aller à Poudlard. Tu n'es pas encore assez grande, Ginny. Ce sera pour plus tard. Vas-y, Percy, passe en premier. » Celui-ci, qui semblait être l'aîné des quatre garçons, se dirigea vers les voies 9 et 10. Harry l'observa attentivement, mais un groupe de touristes arriva au même moment et lui boucha la vue. Lorsque le dernier touriste fut passé, le garçon avait disparu. « Fred, à toi maintenant, » dit la mère. Le garçon se volatilisa de la même manière, sans que Harry comprenne comment il s'y était pris. « Excusez-moi, » dit alors Harry. « Toi, je parie que c'est la première fois que tu vas à Poudlard. Ron aussi est nouveau, » dit la femme en montrant son plus jeune fils, un grand dadais avec de grands pieds, de grandes mains et des taches de rousseur. « c'est ça, » dit Harry. « Je ne sais pas comment on fait pour... »« Ne t'inquiète pas, » dit la femme. « Il suffit de marcher droit vers la barrière qui est devant toi, entre les deux tourniquets. Ne t'arrête pas et n'aie pas peur de te cogner, c'est très important. Si tu as le trac, il vaut mieux marcher très vite. Vas-y, passe devant Ron. »« Oui, d'accord. » Il regarda la barrière entre les voies 9 et 10. Elle paraissait très solide. Bousculé par les voyageurs qui se hâtaient, il se mit à courir en poussant son chariot. La barrière s'approchait dangereusement. Trop tard pour freiner à présent. Il n'était plus qu'à 50 cm. Il ferma les yeux et attendit le choc. Mais il n'y eut pas de choc. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit une locomotive rouge le long du quai où se pressait une foule compacte. De la fumée s'échappait de la locomotive et se répandait au-dessus de la foule. La rumeur des conversations était ponctuée par le bruit des valises traînées sur le quai et le ululement des hiboux. Au-dessus de sa tête, une pancarte signalait « Poudlard Express, 11h ». En regardant derrière lui, Harry vit une grande arche de fer forgée à la place de la barrière et des tourniquets. Un panneau indiquait « Voie 9¾ ». Il avait réussi à trouver son train. « Retrouvons Harry Potter quelques mois plus tard. Pensionnaire au fameux collège de Poudlard, le jeune garçon n'est pas au bout de ses surprises. Au cours du premier trimestre, l'apprenti sorcier découvre les événements officiels qui se répéteront chaque année. La répartition des nouveaux élèves dans les quatre maisons de Gryffondor, Serpentard, Serre-d'Aigle ou Poufsouffle par un choix-peau chantant. Le discours de réception du directeur, Albus Dumbledore, les matchs de Quidditch, sorte de football aérien qui se joue à califourchon sur un balai magique, ainsi que les cours de potions par l'inquiétant professeur Rogue qui semble lui porter une haine incompréhensible. C'est justement en fuyant Rogue dans un couloir une nuit où il explorait la bibliothèque interdite que Harry découvre par hasard une salle inconnue du château qui lui réserve une profonde émotion. Extrait du chapitre 12 de l'école des sorciers, le miroir du Rized. Un hurlement suraigu a glacé le sang retentit alors dans la bibliothèque. C'était le livre qui criait. Harry le referma d'un coup sec, mais le hurlement continua, une note assourdissante, toujours la même. Harry tomba en arrière, renversant sa lampe qui s'éteignit instantanément. Saisi de panique, il entendit des bruits de pas qui s'approchaient. Il remit tant bien que mal le livre sur l'étagère, prit la fuite à toutes jambes, puis fonça dans le couloir. Il entendit avec terreur Rogue parler à Ruzard, le gardien. « La réserve interdite ? Il n'a pas dû aller bien loin, nous allons le rattraper. » Harry se sentit pâlir. Il resta figé sur place tandis que Rogue et Ruzard s'avançaient dans sa direction. Il ne pouvait pas le voir, bien sûr, puisqu'il portait sa cape d'invisibilité, mais ils allaient inévitablement le heurter au passage. La cape le rendait invisible, mais elle ne supprimait pas pour autant le volume de son corps. Il recula en faisant le moins de bruit possible et vit alors sur sa gauche une porte entrouverte. Retenant sa respiration, il se glissa par l'entrebâillement et parvint, à son grand soulagement, à entrer dans la pièce à l'insu de Rogue et Ruzard. Il entendit leurs pas s'éloigner, puis s'évanouir dans le couloir. Il avait eu chaud, très chaud. Il se passa quelques instants avant qu'il ne jette un coup d'œil autour de lui. La pièce dans laquelle il se trouvait avait l'air d'une salle de classe désaffectée. Il voyait la forme sombre de pupitres et de chaises entassées contre les murs. Il remarqua aussi, appuyé contre le mur d'en face, quelque chose qui ne semblait pas appartenir au mobilier habituel d'une salle de classe, quelque chose que quelqu'un avait dû ranger là pour s'en débarrasser. C'était un miroir magnifique, qui montait jusqu'au plafond, avec un cadre d'or sculpté, posé sur deux pieds pourvus de griffes comme des pattes d'animal. Une inscription était gravée au-dessus du miroir. Harry déchiffra « Rized Elru Oknot Etzi Amega Siv Notsap Ert Nomen Eug ». Sa panique s'était calmée. Il ôta sa cape et s'approcha du miroir pour vérifier qu'il était toujours invisible. Il fit un pas en avant et dut alors se plaquer une main sur la bouche pour étouffer un cri d'horreur. Il se retourna brusquement et son cœur cogna contre sa poitrine, encore plus fort que lorsque le livre s'était mis à hurler. Car son reflet était apparu, mais il n'était pas seul. Il y avait un groupe de gens qui se tenaient derrière lui. La pièce était vide, cependant. La respiration haletante, il se tourna lentement vers le miroir. Il vit à nouveau son reflet, livide, apeuré, et derrière lui au moins 10 autres personnes. Harry regarda par-dessus son épaule. La pièce était toujours vide, ou alors eux aussi étaient peut-être invisibles, mais ce miroir avait la faculté de les refléter quand même. À nouveau, il regarda le miroir. Une femme, debout derrière son reflet, lui souriait en faisant des signes de la main. Il tendit le bras derrière lui, mais il ne sentit que le vide. Si cette femme avait été vraiment présente dans la pièce, il aurait pu la toucher, mais il n'y avait rien. Tous ces gens n'existaient que dans le miroir. La femme était très belle. Elle avait des cheveux bruns et ses yeux sont comme les miens, pensa Harry en s'approchant un peu plus près de la glace, d'un vert brillant et d'une forme semblable. Il s'aperçut alors que la femme pleurait. Elle souriait et pleurait en même temps. L'homme qui se tenait à côté d'elle était grand, mince, avec des cheveux noirs. Il la tenait par les épaules. Il portait des lunettes et ses cheveux étaient très mal coiffés. Il avait des épis qui dépassaient à l'arrière de son crâne, tout comme Harry. Il était si près du miroir à présent que son nez touchait presque celui de son reflet. « Maman, maman !» murmura-t-il. « Papa ?» L'homme et la femme le regardèrent en souriant. Lentement, Harry détailla les autres personnes qui se trouvaient dans le miroir. Il vit d'autres yeux verts comme les siens, d'autres nez qui ressemblaient aux siens, et même une petite vieille qui avait les mêmes genoux noueux que lui. Pour la première fois de sa vie, il avait sa famille devant les yeux. Les Potter lui souriaient, ils lui adressaient des signes de la main, et lui les contemplait d'un regard fébrile, les mains plaquées contre le miroir comme s'il espérait passer au travers et se précipiter vers eux. Quelque chose lui faisait mal à l'intérieur de son corps, un mélange de joie et de tristesse. Il ne se rendait pas compte du temps qui passait, les reflets dans le miroir ne s'effaçaient pas, et il ne se lassait pas de les regarder encore et encore, jusqu'à ce qu'un bruit lointain le ramène à la réalité. Il ne pouvait pas rester ici, il fallait qu'il retrouve le chemin du dortoir. Il arracha son visage du visage de sa mère et murmura « Je reviendrai ». Puis il se hâta de quitter la pièce.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Just a shaking hand with their own.
qu'est-ce qui est étrange ?
Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Or, il se trouve que le phénix, sur lequel on a prélevé la plume qui est dans votre baguette, a fourni une autre plume. Une seule autre plume. Il est étrange que ce soit cette baguette qui vous ait convenu, quand on sait que sa sœur vous a fait cette cicatrice.
Et qui possédait cette baguette ?
Oh, on ne prononce pas son nom. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses.
Plus qu'une famille, Harry Potter prend conscience qu'il appartient au clan le plus prestigieux de Poudlard, les Griffons d'Or. 2 ans plus tard, comme chaque année, l'honneur de la maison est remis en jeu. Retrouvons Harry sur son terrain de prédilection, le stade de Quidditch.
Le Quidditch a des règles assez simples. Chaque équipe a 7 joueurs. 3 poursuiveurs, 2 batteurs, 1 gardien et 1 attrapeur. Toi. Il y a 3 sortes de balles. Celle-ci s'appelle un swaffle. Les poursuiveurs se passent le swaffle et essaient de le lancer à travers un de ces 3 cercles. Le gardien, c'est moi, défend les buts. La seule balle dont tu dois te soucier est celle-ci. Le vif d'or.
J'aime bien cette balle.
Ah, tu l'aimes bien. Mais tu verras, elle va si vite qu'il est presque impossible de la voir.
Je dois faire quoi avec ?
L'attraper. Avant l'attrapeur adverse. Si tu l'attrapes, le match est fini. Si tu l'attrapes, Potter, on gagne.
Le sortilège d'Hermione avait réussi. Harry était toujours engourdi par le froid, toujours trempé de part en part, mais au moins il arrivait à voir normalement. Animé d'une nouvelle énergie, il fendit les remous de l'orage, jetant des coups d'œil de tous côtés en quête du vif d'or, évitant un cognard, plongeant sous le balai de Cédric Diggory qui filait en sens inverse. Il y eut un nouveau coup de tonnerre accompagné d'un éclair fourchu. Harry prit un virage serré avec l'intention de revenir vers le milieu du terrain. Mais au même moment, un autre éclair illumina les tribunes et il vit quelque chose qui détourna aussitôt son attention. Sur le plus haut gradin, vide de spectateurs, la silhouette d'un énorme chien noir et hirsute se détachait nettement contre le ciel. Harry sentit ses mains engourdies glisser sur le manche du balai et son nimbus fit un bref plongeon. Il plissa les yeux en regardant à nouveau vers les tribunes. Le chien avait disparu. « Harry !» hurla la voix angoissée d'Olivier Dubois qui gardait les buts de Gryffondor. « Harry, derrière toi !» Harry tourna la tête. Cédric Diggory filait à toute vitesse dans sa direction. Entre deux, un minuscule point doré scintillait sous la pluie. Dans un brusque mouvement de panique, Harry se coucha sur son manche et fonça vers le vif d'or. Mais quelque chose d'étrange se produisait. Un silence inquiétant s'était soudain abattu sur le stade. Le vent avait cessé de mugir. C'était comme si quelqu'un avait coupé le son, comme si tout à coup Harry était devenu sourd. Il sentit alors une vague de froid l'envahir, un froid qui le pénétra jusqu'au fond de lui-même. Un froid terriblement familier. Puis il eut conscience que quelque chose bougeait sur le terrain. Harry détacha ses yeux du vif d'or et regarda en bas. Une 100aine de détraqueurs, leurs faces noires et encagoulées levées vers lui, se tenaient sur le terrain. Il eut l'impression qu'une eau glacée se déversait dans sa poitrine et lui déchirait les entrailles. Alors il entendit à nouveau la voix de quelqu'un qui criait à l'intérieur de sa tête, une voix de femme. « pas Harry, je vous en supplie, pas lui !»
« Pousse-toi, espèce d'idiote. Allez, pousse-toi. »«
Non, pas Harry, je vous en supplie. Tuez-moi, si vous voulez, tuez-moi à sa place. » Harry sentait son cerveau engourdi par une espèce de brouillard blanchâtre qui tourbillonnait dans sa tête. Que faisait-il là? Pourquoi volait-il sur ce balai? Il fallait immédiatement porter secours à cette femme. Elle allait mourir. Quelqu'un était sur le point de l'assassiner. Harry tombait à travers le brouillard glacé. « Non, pas Harry, je vous en supplie, ayez pitié !» Une voix suraiguë se mit à rire. La femme hurla et Harry n'entendit plus rien du tout. il s'écrasa dans un éclat de boue. Avançons dans le temps et le parcours initiatique de Harry Potter. Découvrons le jeune garçon en proie à d'autres tourments, ceux d'un âge que l'on dit ingrat.
À ton avis, qu'est-ce que Dean lui trouve à Ginny?
Et elle, qu'est-ce qu'elle lui trouve?
À Dean? Il est super. Tu l'as traité de petit con il n'y a pas 5 heures de ça. Oui, mais il est en train de tripoter ma sœur, tu vois. Ça fait un choc. On est obligé de haïr ce type. Par principe.
Nommé capitaine de Quidditch, Harry se voit confier la tâche de composer une nouvelle équipe pour le prochain match des Griffons d'Or contre Serpentard. Il recrute 2 bons joueurs, Dean Thomas et Ginny, la sœur de Ron. Mais Ron est un joueur médiocre. Un soir, il est particulièrement mauvais lors d'une séance d'entraînement. Mais le grand frère n'est pas au bout de ses surprises. Agacé par ses échecs sportifs, le ton monte. Nous sommes tome 6, le prince de sang mêlé, extrait du chapitre 14, Félix Félicis. J'ai joué comme de la bouse de dragon, dit Ron d'une voix éteinte. Mais non, répliqua Harry avec fermeté. Le seul problème, c'était Ner. Tout au long du chemin qui les ramenait au château, Harry déversa un flot continu d'encouragement. Et lorsqu'ils eurent atteint le 2e étage, Ron paraissait légèrement plus joyeux. Mais au moment où Harry écartait la tapisserie qui masquait leur habituel raccourci vers la tour de Gryffondor, ils virent Dean et Ginny étroitement enlacés, qui s'embrassaient furieusement comme s'ils avaient été collés l'un à l'autre. Harry eut alors l'impression qu'une grosse créature couverte d'écailles prenait vie dans son ventre, lui griffait les entrailles. Il lui semblait qu'un sang brûlant inondait son cerveau, annihilant toute pensée, ne laissant plus qu'un désir sauvage de transformer Dean en un tas de gelée. Aux prises avec cette soudaine folie, il entendit la voix de Ron comme si elle lui parvenait de très loin. « Hé, là !» Dean et Ginny se séparèrent et se tournèrent vers eux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit Ginny. « Je ne veux pas voir ma propre sœur bécoter les gens en public. »« Viens, Ginny, » murmura Dean. « On n'a qu'à retourner dans la salle commune. » « Vas-y tout seul, lança Ginny. Moi, j'ai 2 mots à dire à mon cher frère. » Dean s'éloigna, n'éprouvant apparemment aucun regret de quitter les lieux. « Bon alors, » reprit Ginny qui rejeta en arrière ses longs cheveux roux en fixant Ron d'un regard noir. « On va mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Je sors avec qui je veux et je fais ce que je veux. Ça ne te regarde pas, Ron. »« Si, ça me regarde, » répliqua Ron tout aussi furieux. « Tu crois vraiment que j'ai envie d'entendre dire que ma sœur est une... » « Une quoi ?» s'écria Ginny en sortant sa baguette. « Une quoi exactement ?»« Il ne pense pas ce qu'il dit, » déclara machinalement Harry, bien qu'il entendît en lui les rugissements du monstre qui approuvait les paroles de Ron. « Oh si, il le pense !» s'exclama Ginny en s'emportant cette fois contre Harry. « Il le pense tout simplement parce que lui n'a jamais bécoté personne de sa vie et que le plus beau baiser qu'il ait jamais reçu, c'est celui de notre tante Muriel. »« Ferme-la, » beugla Ron en sortant sa baguette à son tour. Harry poussa Ron contre le mur. « Ne sois pas idiot. »« Harry a embrassé Cho Chang, » s'écria Ginny, qui semblait à présent au bord des larmes. « Et Hermione a embrassé Victor Crumb. Il n'y a que toi qui aies l'air de trouver ça dégoûtant, Ron. Et c'est parce que tu as à peu près autant d'expérience qu'un garçon de 12 ans. » Puis elle les planta là, en filant comme un ouragan. Ils restèrent tous deux côte à côte, la respiration haletante. Harry se sentait désorienté, étourdi par ses pensées. On devait éprouver une sensation semblable quand on était frappé par la foudre. « C'est simplement parce qu'elle est la sœur de Ron, » se dit-il. « Ça ne t'a pas plu de l'avoir embrassé Dean parce qu'elle est la sœur de Ron. » Une image pourtant s'imposa dans son esprit. Dans ce même couloir désert, c'était lui tout à coup qui embrassait Ginny. Le monstre apaisé ronronnait à présent dans sa poitrine. Mais il vit aussi l'image de Ron qui écartait la tapisserie et menaçait Harry de sa baguette, hurlant quelque chose comme « Trahir ma confiance, toi qui te disais mon ami !»« Tu crois vraiment qu'Hermione a embrassé Victor Crumb ?» demanda soudain Ron. Harry sursauta. « Quoi ? » dit-il un peu perdu. « Ni l'un ni l'autre ne parlèrent plus de Ginny. En fait, ils échangèrent à peine quelques mots ce soir-là et allèrent se coucher en silence, chacun absorbé par ses propres pensées. Harry resta longtemps étendu, les yeux ouverts, s'efforçant de se convaincre que ses sentiments pour Ginny n'étaient autres que ceux d'un grand frère. D'ailleurs, n'avait-il pas vécu comme frère et sœur tout au long de l'été, jouant au Kiddish et taquinant Ron ? Il y avait maintenant des années qu'il connaissait Ginny. Il était naturel qu'il ait tendance de la protéger, naturel qu'il se soucie de veiller sur elle, naturel qu'il veuille couper Dean en morceaux pour l'avoir embrassée. Ron émit un ronflement qui ressemblait à un grognement. Elle est la sœur de Ron, songea Harry avec fermeté. La sœur de Ron, elle est intouchable. Pour rien au monde, il ne mettrait en péril son amitié avec Ron. Il retapa son oreiller à coups de poing et attendit le sommeil, essayant de son mieux d'empêcher ses pensées de s'égarer du côté de Ginny. Mais bientôt, des événements tragiques ramènent brutalement Harry à la réalité. Avec la complicité du traître Drago Malfoy, les forces du mal ont attaqué le château de Poudlard. Au cours de cette bataille, Dumbledore trouve la mort, assassiné par le professeur Rogue, qui se révèle être un disciple de Voldemort. Dans les épisodes précédents, Harry a maintes fois affronté le sorcier noir et ses nombreux avatars. Ouvrons désormais le 7e et dernier volume de la saga, Les Reliques de la Mort. Nous voici parvenus au dénouement d'une œuvre à laquelle l'auteur, J.K. Rowling, a consacré 17 ans de sa vie. 17 ans, l'âge de la majorité chez les sorciers. C'est justement l'âge de Harry lorsqu'il se prépare pour son ultime combat contre vous savez qui.
Bien que je sois très sensible à ta soif de sang, Bellatrix, c'est moi seul qui dois tuer Harry Potter. Mais il y a une regrettable complication. Ma baguette et celle de Potter sont identiques à l'intérieur. Elles sont, en quelque sorte, jumelles. Nous pouvons nous blesser l'un l'autre, mais pas mortellement. Si je dois le tuer, je devrais le faire avec la baguette d'un autre. Allons. L'un de vous aimerait avoir cet honneur. Pourquoi pas toi, Lucius, maître? Donne-moi ta baguette.
Un essaim de détraqueurs glissait parmi les arbres. Harry sentait le froid qu'il répandait dans la nuit. Il n'avait plus assez de force pour produire un sortilège. Il ne parvenait pas à contrôler ses tremblements. Mourir n'était finalement pas si facile. Chacune de ses respirations, l'odeur de l'herbe, la fraîcheur de l'air sur son visage, lui était infiniment précieuse. Penser que la plupart des gens avaient des années et des années devant eux du temps à perdre, alors que lui se raccrochait à chaque seconde. Le long match était terminé. Il avait attrapé le vif d'or. Le moment était venu d'atterrir. Le vif d'or. Ses doigts sans force fouillèrent dans la bourse qu'il portait au cou et il l'en sortit. Il lut l'inscription gravée sur la petite balle. « Je m'ouvre au terme ». La respiration rapide, saccadée, il la contempla. Le terme était là. Le moment était venu. Il pressa le métal doré contre ses lèvres et murmura « Je suis sur le point de mourir ». La coque métallique s'ouvrit alors. La pierre de résurrection reposait dans les deux moitiés du vif d'or. À nouveau, il comprit sans avoir à réfléchir. Il n'avait plus besoin de les faire revenir puisqu'il s'apprêtait à les rejoindre. Il n'allait pas vraiment les chercher. C'était eux qui venaient le chercher. Il ferma les yeux et tourna trois fois la pierre dans sa main. Il sut que quelque chose se passait lorsqu'il entendit autour de lui de légers mouvements, comme des corps frêles posant le pied sur le sol de terre, recouvert de brindilles qui marquaient la lisière de la forêt interdite. Il ouvrit les yeux et regarda. Ce n'étaient ni des fantômes, ni véritablement des êtres de chair. Ils ressemblaient plutôt à des souvenirs qui se seraient matérialisés. Moins consistants que des corps vivants, mais plus que des spectres, ils avançaient vers lui et sur chaque visage, il voyait le même sourire d'amour. James Potter, son père, avait exactement la même taille que Harry. Il portait les vêtements dans lesquels il était mort. Sirius Black, son parrain, était grand, beau et paraissait beaucoup plus jeune. Il marchait à grands pas, un sourire aux lèvres. Mais c'était Lily, sa mère, qui avait le plus large sourire. Elle s'approcha de lui, le dévorant de ses yeux verts, si semblables à ceux de Harry. « Tu as été si courageux, » murmura-t-elle. Il lui fut impossible de parler. Il pensa qu'il aurait voulu rester là à la regarder à tout jamais, que cela lui aurait suffi. « Tu y es presque, » dit James, « tout près. Nous sommes si fiers de toi. » Est-ce que ça fait mal ? La question puérile s'était échappée des lèvres de Harry avant qu'il ait pu la retenir. Mourir ? Pas du tout, répondit Sirius. C'est plus facile que de s'endormir. Une brise fraîche qui semblait émaner du cœur de la forêt souleva les cheveux de Harry sur son front, découvrant sa cicatrice. C'était comme un appel. Il savait qu'il ne lui dirait pas d'y aller, que c'était à lui de prendre la décision. « Vous resterez avec moi ?»« Jusqu'à la toute fin, » dit James. « Ils ne pourront pas vous voir ?» demanda Harry. « Nous faisons partie de toi, » répondit Sirius. « Nous sommes invisibles pour les autres. » Harry regarda sa mère. « Reste près de moi, » dit-il à voix basse. et il se mit en chemin. Le froid des détraqueurs ne parvint pas à le submerger. Il le traversa avec ses compagnons qui agissaient ensemble comme un sortilège. Dans l'obscurité, Harry serrait la cape d'invisibilité contre lui, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt, sans savoir exactement où était Voldemort, mais certain qu'il le trouverait. À côté de lui, presque sans bruit, marchaient James, Lily et Sirius. C'était leur présence qui constituait son courage. Curieusement, ces morts familiers lui semblaient beaucoup plus réels que les vivants restés au château. C'était Ron, Hermione, Ginny et tous les autres qui ressemblaient à des fantômes, tandis que, trébuchant par endroits, il s'avança vers le terme de sa vie, vers Voldemort. Soudain, au milieu d'une clairière, il vit une lueur vacillante. Un feu éclairait une foule de mange-morts totalement silencieux. Certains étaient encore masqués et encapuchonnés, d'autres montraient leurs visages blafards sur lesquels le feu projetait des ombres massives et accentuait leurs traits cruels. Tous les regards étaient fixés sur Voldemort qui se tenait face à Harry, la tête inclinée, ses mains blanches serrant devant lui la baguette de sureau qu'il avait dérobée à Dumbledore. On aurait pu croire qu'il priait. Personne ne parla. Harry avait les mains moites lorsqu'il retira sa cape d'invisibilité et la glissa sous sa robe avec sa baguette magique. « Il me semble que je me sois trompé », dit soudain Voldemort. Harry Potter avait une heure pour se montrer. Il n'est pas venu. « Vous ne vous êtes pas trompé. » Harry avait parlé d'une voix aussi sonore que possible, avec toute la force dont il était capable. Il ne voulait pas laisser penser qu'il avait peur. La pierre de résurrection glissa de ses doigts, et du coin de l'œil, il vit ses parents et Sirius disparaître. À cet instant, plus personne ne comptait pour lui en dehors de Voldemort. Ils n'étaient plus que tous les deux. Les géants rugirent, les mange-morts se levèrent tous ensemble, et des cris, des exclamations de surprise, des éclats de rire même montèrent de la foule. Voldemort s'était figé sur place, mais ses yeux rouges s'étaient posés sur Harry. Il n'y avait plus entre eux que le feu qui brûlait. Voldemort contemplait le garçon qui se tenait devant lui, et un sourire cruel retroussa sa bouche sans lèvres. « Harry Potter, le survivant !» Sa voix aurait pu se confondre avec le crépitement du feu. Les mange-morts ne bougeaient plus. Ils attendaient. Tout attendait autour d'eux. Inexplicablement, Harry songea à Ginny, à son regard flamboyant, à la sensation de ses lèvres contre les siennes. Voldemort avait levé sa baguette. Harry soutenait le regard des yeux rouges. Il voulait que tout se passe vite, pendant qu'il pouvait encore tenir debout, avant qu'il ne trahisse sa peur. Il vit alors la bouche remuer « Avada Kedavra !» Puis il y eut un éclair de lumière verte et tout disparut. Nous voici à la fin de l'histoire. Laissons le temps passer et retrouvons Harry Potter à l'âge de 40 ans. Il est marié à Ginny, la sœur de Ron. Dans le tome 8 imaginé par Joanne Kathleen Rowling, coécrit par John Tiffany et Jack Thorne pour le théâtre, Harry Potter et l'enfant maudit, Harry a des soucis avec son fils Albus, un adolescent en pleine révolte. Renouant avec son père symbolique, Harry vient demander conseil au portrait de Dumbledore qui lui dit avec sagesse « On ne peut pas protéger les jeunes de la souffrance. Tu es censé lui apprendre à affronter la vie. » Découvrons la très belle scène entre Harry et son fils, sur laquelle s'achève définitivement la saga Harry Potter. « Tu sais, je croyais en avoir fini avec lui. » Avec Voldemort. Et puis ma cicatrice a recommencé à me faire mal. J'ai rêvé de lui. Et peu à peu, j'ai eu l'impression qu'il ne m'avait jamais quitté. Et c'était vrai. Ce qu'il y avait de Voldemort en moi était mort physiquement, il y a longtemps. mais il fallait aussi que j'en sois libéré mentalement. Et ça, c'est une grande leçon pour un homme de 40 ans. Et puis, ces mots que j'ai eus contre toi sont impardonnables et je ne peux pas te demander de les oublier. J'espère simplement qu'on arrivera à dépasser ça. Je vais essayer d'être sincère avec toi. Et, papa, tu n'as pas besoin de... Tu m'as dit un jour que je n'avais peur de rien et que, en fait, j'ai peur de tout. Par exemple, j'ai peur dans le noir. Tu savais ça ? Harry Potter a peur dans le noir ? Oui. Mais ce qui me fait le plus peur, Albus Potter, c'est d'être ton père. Parce que là, je n'ai pas de boussole. La plupart des gens ont un père auquel se référer pour essayer d'être comme lui ou de ne pas être comme lui. Moi, je n'ai rien. Ou très peu. Alors, j'apprends. D'accord ? Et je vais essayer, de toutes mes forces, d'être un bon père pour toi. Et moi, j'essaierai d'être un meilleur fils, papa.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia, avec Jean-Michel Bernot à la technique, a été préparée par Estelle Gapp, Léla Kouroussélikoua, Perrine Malinge et Claire Tessert. Merci à tous, merci aussi à Gilles Paris et aux éditions Gallimard. Bonne soirée et joyeux Noël.